Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR. Shai, cette nuit, on a eu une vraie nuit de basket, playoff. On a eu deux matchs avec une intensité folle, mais surtout un suspense assez dingue sur la fin. Il y a eu trois matchs en tout, hein, mais il y en a deux particulièrement qui se sont terminés dans des conditions épiques. Et je te propose qu'on commence avec le dernier de la soirée, celui entre les Lakers et les Nuggets. Victoire des Nuggets 101 à 99. Avec, c'était carrément un thriller avec un panier au buzzer de Jamal Murray. Jamal Murray qui a crucifié les Lakers, il les a achevés, il a conclu le comeback des Nuggets pour une victoire donc de Denver, la deuxième dans cette série 2-0 pour Denver.
Ouais, quel match, quelle fin de match surtout, le dernier carton, il était assez fou. T'as LeBron James qui fait un quatrième carton totalement dingue, on va pas reparler de son âge et tout ça, mais offensivement c'était impressionnant, il rentrait tout, il a mis des shoots extrêmement... des tirs à trois points, des drives, enfin tout rentrait. T'as l'impression que il pouvait pas faire plus que ça. Et c'est un peu le sentiment avec lequel je ressors de ce match du point de vue des Lakers, c'est que je sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus que ça. C'est-à-dire mener de 15-20 points contre Denver et malheureusement pour eux perdre à la fin alors que leurs meilleurs joueurs sont là. C'est-à-dire que LeBron fait un bon match, un bon quatrième carton notamment. Anthony Davis fait ce qu'il peut. C'est lui qui prend le shoot sur la tête. Le shoot de Jamal Murray qui est magnifique et qui le prend sur la tête. Moi, je ressors de ce match-là avec ce sentiment-là. Ils ne sont pas pour rien sur 10 défaites de suite contre les Nuggets. Il y a un truc psychologique qui fait que Denver a l'ascendant et même en étant mené assez largement, ne plie pas et arrive même à renverser la situation.
C'est marrant, je me suis fait un constat un peu similaire. Je me suis dit, mais en fait, si tu ne prends pas celui-là... En fait, j'ai essayé de me mettre dans la tête des joueurs des Lakers et de me dire, mais là, sur le coup, le moment où Murray il met le buzzer, t'as la salle qui explose, t'as tout le monde qui saute sur Murray, t'as les mecs qui repartent la tête baissée, tu les vois la tête baissée. Je me suis dit, mais en fait, dans ta tête, tu dois te dire, mais si on prend pas celui-là, on prend lequel, tu vois? Et l'ironie, c'est que pourtant, celui-là, ils sont tout proches de le prendre. Ils ont 20 points d'avance au cours de ce match, 15 à la mi-temps, 10 au début du quatrième quart-temps. Et alors, il y a un comeback des Nuggets. Mais ce comeback des Nuggets, il se fait en deux temps. Je sais qu'à un moment, ils reviennent à 83-81, les Nuggets. Mmh. LeBron, il répond avec deux paniers à trois points. Tu l'as dit, ouais. LeBron, il met 12 points dans le quatrième quart-temps. Il a été énorme. On parle souvent du two-man game entre Murray et Jokic. On va pouvoir en parler. Hein. C'est le meilleur duo de la Ligue. Mais il y a un two-man game LeBron-Davis sur cette fin de match où ça marche très bien. C'est-à-dire que même encore plus tard, Michael Porter Jr., il égalise à 95-95. Il y a vraiment le momentum qui est en faveur des Nuggets. Il y a plein d'équipes qui craquent à ce moment-là. Non, les Lakers, ils marquent encore. Ils marquent un panier 97-95. Murray met deux lancers. Ils remarquent un panier 99-97. Et c'est là après où Murray met deux tirs à mi-distance d'affilée. Et les Lakers avaient tout fait. Ils ont assumé hein, les deux stars. Hein, parce que c'est LeBron Davis. Ils ont tout fait pour défendre le pick and roll Jokic. Murray, donc le premier tir Murray il le met sur LeBron, le deuxième sur Davis et tu te dis tu passes si près et d'un autre côté t'as l'impression de te dire mais si tu perds celui-là lequel tu vas gagner quoi.
C'est ça, mais alors t'as raison Murray effectivement il met des paniers importants mais Jokic et même Michael Porter Jr. son panier à 3 points là je trouve que celui-là il est un peu désespérant parce que les Nuggets gèrent un peu mal cette possession. Très mal. C'est une relance, ils essaient de relancer super vite. Jokic il est en bout de pouce comme on disait quand on jouait à la PlayStation, tu as l'impression qu'il va la perdre, il est vraiment au bout du truc, il arrive à lancer vers Aaron Gordon qui fait un sauvetage, ça c'est une action décisive pour moi, tu vois, c'est pas du tout on va pas en parler mais il est à la limite de la sortie et il arrive à la remettre sur Porter qui est un shooter exceptionnel et qui la met sous pression. Sentiment d'impuissance pour les Lakers, je pense que ils doivent se demander comment ils vont faire. Et puis d'un côté j'ai aussi envie de dire qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que avec cet effectif-là, est-ce que tu dois finir aussi bas et jouer une équipe comme les Nuggets d'entrée? Si, tu vois, c'est aussi ça, on peut revenir sur la saison régulière. C'est-à-dire qu'ils finissent...
Non, mais ils finissent... Je sais pas.
Ils passent par le play-in, tu vois. C'est...
Non, mais ils sont à 47, quoi, 47 wins. Leur effectif, je le trouve pas si impressionnant. Je sais qu'ils accrochent bien les Nuggets, mais ils finissent à 47 wins, déjà, ce qui est beaucoup. Et ça veut dire ils méritent quoi mieux que l'effectif des Suns ou que des Mavs ou que les Clippers, tu vois, les équipes de
peut-être.
Je trouve que leur effectif est meilleur que celui des Suns.
Il est pas moins bien construit en tout cas. Enfin, avec les deux stars qui se connaissent bien, qui ont été champions ensemble,
ils ont qu'un 5 majeur. Moi, ce que je trouve, c'est que les Lakers, ils ont qu'un 5 majeur. Derrière, c'est le vide. D'ailleurs, c'est le vide. Hein. Il n'y a personne qui a rien apporté d'autre. Hein. C'est le vide complet. Ils ont leurs 5 meilleurs joueurs. Et le pire, c'est que plus les minutes passent, plus tu as ton 5 majeur qui joue toutes ces minutes. Après, on pourrait quelque part presque dire la même chose des Nuggets. Hein. On le voit. Alors là, Christian Brown a mis 10 points. Mais on le voit, la rotation des Nuggets, elle est très légère aussi.
Ouais.
Et ça va être un problème peut-être dans les tours à venir. Mais ouais, les Lakers, Gabe Vincent, il apporte très peu. Spencer Dinwiddie, il apporte très peu. J'ai découvert Harry Giles. Il était aux Lakers.
Ah, il était aux Lakers.
J'étais même pas au courant, ça, pour te dire.
Ils vont récupérer Christian Wood au prochain match, normalement, mais bon, je suis pas sûr que ça soit un game changer absolu.
Rui Hachimura et Austin Reeves sont passés un peu à côté de leur match. Davis, t'en as parlé, a mis 32 points, 11 rebonds. Il y a eu 26 points, 12 passes pour LeBron. Après, ouais. Murray, j'aimerais juste revenir sur Murray. C'est quand même quelque chose, hein, parce qu'il fait quand même un match dégueulasse, en fait. Il fait un match dégueulasse. Il fait un match dégueulasse, mais personne va s'en souvenir, et à juste titre, tu peux même pas te souvenir qu'il a fait un match dégueulasse. Il met 20 points, mais il a raté les 14 de ses 18 premiers tirs. Il a mis 5 des 6 derniers. Ouais. Il a mis les 6 derniers points des Nuggets. Il a mis les paniers qu'il fallait, et surtout, il y a un truc qui marque avec les Nuggets, c'est une des rares équipes dont la balle vit encore. Il y a encore de la vie dans le mouvement des Nuggets quand le match est chaud. Il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça.
Ça, c'est Jokic. Hein.
Ouais, c'est exactement. C'est
quand tu vois la fin de match, ils pilotent. Il y a les autres stars en fin de match, elles cherchent l'opportunité de prendre leur tir, de créer leur tir. Jokic, il pilote. Il a mis ses paniers aussi, hein, dans le run.
Premier comeback, c'est lui. Hein.
Voilà. Mais c'est ça, c'est lui qui dicte le rythme et qui continue de faire vivre le ballon. T'as raison, c'est un paramètre important. Et derrière, bon, il faut avoir un mec comme Jamal Murray. C'est un mec comme Jamal Murray qui est un tueur. C'est vraiment un tueur, ce mec. Hein. C'est-à-dire qu'il est...
Il prend, ça l'excite, en fait. Quand
non, mais le tir qu'il met, c'est Anthony Davis devant. Quoi. Il se détend, il se met devant lui. Il n'est pas simple à rentrer. Et les tirs d'avant aussi, qu'il arrive à se créer, ils sont pas simples. Les tirs à mi-distance qui rentrent. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est... Je serais à la fan des Lakers, je serais assez déprimé, je pense, parce que tu te dis qu'il y a un sentiment d'inévitabilité 10 fois de suite, et puis tu prends une défaite comme ça, ça va être mentalement, ça va être très très difficile.
Ouais. Après, ils sont tellement prêts à chaque fois qu'il suffit, tu vois, d'une victoire pour les booster, mais ouais. Oui, c'est compliqué. Juste, je donne les stats de Jokic avant qu'on parle des Knicks. 27 points, 20 rebonds, 10 passes.
Ouais, voilà.
Ça c'est fait.
22 points Michael Porter Jr. aussi.
Ouais, et 6 paniers à 3 points de Michael Porter.
Lui aussi, mentalement, on l'a pas mal critiqué depuis des années, mais il faut dire, le gars, il a quand même un frère qui a pris 6 ans de prison et l'autre qui vient de se faire bannir de la NBA. Il tient le choc, quoi. Faut lui reconnaître ça.
Non, c'est clair, bah, t'as raison. T'as tout à fait raison. Les Knicks qui, du coup, ont battu les Sixers 104 à 101. Là aussi, c'était un match avec une fin de match assez dingue. C'est-à-dire
énorme.
New York avait 8 points d'avance, a gaspillé cette avance, s'est retrouvé avec 5 points de retard à 30 secondes de la fin. Et en 30 secondes, alors que le Madison Square Garden était devenu tout calme, les Knicks ont tout renversé avec 2 points à 3 points. Un de Jalen Brunson, puis un de Dante DiVincenzo. Une action folle d'ailleurs qui mène au panier pour la gagne de Dante DiVincenzo. Et victoire des Knicks qui mène 2 à 0 contre les Sixers. Ouais.
Incroyable. DiVincenzo, il a eu le droit au double bang de Mike Breen. C'est très, très rare. C'est la 6e fois de l'histoire qu'il ça se passe. J'ai vu l'histoire. Le mec était fou. Ah, il a eu le droit au double bang. Incroyable. Et ouais, fin de match totalement taré. T'as raison, le Garden avait abdiqué. Et puis derrière, il se passe ce qu'il n'aurait pas dû se passer. Si les Sixers avaient réussi à verrouiller le match. Je sais que Nick Nurse s'est plaint qu'il n'avait pas eu le droit de poser un temps mort. Les arbitres l'avaient pas, soit ils l'ont pas vu, soit ils l'ont pas autorisé, je sais pas, mais il était fou. Je crois que les Sixers ont déposé une sorte de recours pour l'arbitrage des deux premiers matchs. On sait que ça ne mènera strictement à rien.
Et pourquoi c'est toujours les équipes de Daryl Morey qui font ça, quoi.
Mais bon, enfin, ouais. Ça, ils envoient des rapports sur l'arbitrage, sur des équipes, sur comment des équipes sont arbitrées. Bon, passons, c'est pas très grave. Mais cette fin de match, ils auraient pas dû la. Aurait dû être mieux géré. Philly avait fait ce qu'il fallait.
Bah, MBD... La question sur le panier, ouais. De DiVincenzo.
Ouais, c'est ça. Mais Embiid et Maxi avaient fait le job, hein, à 34 points pour Embiid, 35 pour Maxi. Et ouais, la fin est un peu irréaliste parce que t'as Brunson qui a pas mis un caramel du match. Il était pareil, ça fait deux matchs qu'il est en difficulté. Brunson, il est plutôt bien géré, bien défendu. Il marque à 3 points dans le corner, donc ça revient à 2 points déjà une première fois. Et après, Josh Hart, hop, qui chip le ballon à Maxi qui était un peu négligent sur le coup. Et derrière, ça conduit à ça. Hartenstein, très important dans le money time aussi, parce qu'il prend un rebond.
Oui, parce que c'est ça. Parce qu'en fait, quand il vole le ballon, il y a une première tentative de DiVincenzo qui est ratée. Et je trouve le rebond d'Hartenstein, il est symbolique parce qu'en plus d'être évidemment précieux, vu que ça mène à la deuxième tentative de DiVincenzo qui marque, en fait, c'est fait deux matchs que les Knicks, encore une fois, dominent leur adversaire au rebond. Et Embiid, il y a beau avoir Embiid, en fait, les Knicks dominent au rebond. Alors, c'était un peu moins flagrant sur ce match-là. Mais justement, en deuxième mi-temps, dans le quatrième quart-temps, Embiid, je crois, il ne prend pas un rebond. Il finit pourtant avec 10 rebonds au total, mais je crois qu'il n'en prend pas un seul dans le quatrième quart-temps. Mmh. Enfin, il y a une domination au niveau du cœur et de l'énergie et du courage de ces Knicks. Enfin, c'est à leur image, mais on a l'impression que ça les transporte, quoi.
Ouais, c'est ça. Et pour revenir sur Hartenstein, il y a aussi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il contre Maxi, ce qui permet derrière à Nobby de marquer deux lancers et de conserver l'avance. Parce que, y a Embiid qui a le temps, qui prend quand même un shoot à la fin pour essayer d'égaliser. Mais c'est tous ces petits trucs-là. Il n'y a pas de superstar au sens traditionnel du terme, même si Jalen Brunson est pas. Mais collectivement, ils ont ce cœur. Tu vois, les Josh Hart qui se jettent sur tous les ballons. Ninobi qui est très bien, Hartenstein, et puis DiVincenzo qui est sur la lancée de sa saison où il a une confiance en lui qui est incroyable, et il est monté en responsabilité aussi là depuis qu'il est au Knicks. C'est incroyable, le Garden était un volcan après à la fin. Enfin, il leur faut pas grand chose, l'étincelle est facile à déclencher, mais c'était les Knicks du coup sont à 2-0. Embiid a dit qu'ils auraient dû être à 2-0 d'ailleurs. Et c'est pas totalement faux sur la manière dont se sont déroulés les matchs. Philadelphie a été assez proche à chaque fois et a gâché des chances, je pense. J'espère qu'ils vont pas le regretter après, parce qu'on sait qu'Embiid est sur un fil. On le voit encore. Je sais pas si t'as vu sur l'avant-match, il était avec des lunettes. Il avait des espèces de lunettes de soleil, puisque personne n'a compris pourquoi il avait un œil qui clignait et pas l'autre au dernier match. Donc il doit y avoir un souci de leur niveau oculaire de ce côté-là, ouais. Plus le genou, enfin. Les Sixers, je me répète sur ce que j'ai dit hier, mais je les trouve trop sur un fil justement pour espérer battre une équipe qui va jouer à 2000% à chaque fois.
Il y a un truc pour les Sixers comme pour les Lakers. Alors, je pense que ça concerne plus les Sixers que les Lakers, même toutes les équipes qui sont menées 2-0, il y a aussi Orlando dont on va parler après. C'est qu'on dit souvent qu'une série, elle n'a pas commencé tant qu'il n'y a pas eu une victoire à l'extérieur. Par exemple, les Lakers sont passés tout proches, sont passés tout proches là à Denver. On sait que c'est dur d'aller jouer à Denver. Il y a encore un monde où ils égalisent à 2-2 et la série est relancée. Bon, c'est un peu plus dur, je pense, dans le cadre des Lakers, parce qu'ils jouent la meilleure équipe, ou en tout cas le champion en titre et la meilleure équipe de l'Ouest. Pour le cas de Philly, si dans la tête d'Embiid et de ses coéquipiers, ils se disent « c'est nous, là, on est meilleurs que les Knicks à la base, c'était nous les deuxièmes », tu vois, tu peux… Je veux dire, on a déjà des équipes qui remontent à 2-0, ça existe.
Oui, oui.
Il y en a un paquet. Si tu penses que tu es la meilleure équipe, tu vois, tu peux… rétablir à domicile, gagner les deux matchs, et tu arrives sur un game 5 où la dynamique a changé. Voilà, donc si Embiid dit ce genre de choses, si ça permet à ses coéquipiers d'avoir un discours optimiste, parce que ils ont pas grand chose à envier à Knicks a priori, hein, mais
sur le talent, des meilleurs joueurs a priori, ça, oui, sur le talent pur non, mais collectivement par contre il y a un monde, hein. Enfin un monde, exagère, mais il y a personne qui match l'intensité d'Knicks dans ses playoffs de toute façon. Après, contre des équipes peut-être plus fortes ou moins abîmées que les Sixers, ça sera différent, mais ils ont ce que tu évoquais tout à l'heure, le cœur, c'est pas sous-côté, hein, c'est des impondérables, c'est pas de la tactique, c'est pas de la technique, c'est juste c'est la combativité, ça se traduit par des rebonds offensifs, toutes ces choses-là, les deuxièmes chances, le rebond d'Hartenstein pour permettre après à DiVincenzo de re-shooter, c'est l'exemple même de cette équipe.
Ouais. Allez, on va passer au troisième match de la soirée, celui entre Cleveland et Orlando. C'est la série un peu moins sexy, hein. Ça fait deux matchs que bon.
T'es sûr que tu vas en parler là, parce que c'est...
Les Cavaliers ont battu le Magic 96-86. 23 points de Donovan Mitchell, 16 points, 20 rebonds de Jarrett Allen. C'est le duo qui avait déjà fait la différence sur le premier match. Evan Mobley aussi est pas mal, il a 17 points, lui aussi avait fait un bon premier match. Bon, on est sur une série qui, d'une, est défensive, mais deux, où en fait, est-ce qu'on l'avait comparé aux Timberwolves Grizzlies de...
Absolument, tu t'avais fait la comparaison, oui.
Tu sens qu'en fait, les deux équipes, elles sont pas vraiment au niveau. En fait, elles pourraient jouer, je pense, elles pourraient jouer d'autres équipes et chacune se faire taper au premier tour. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, les Cavs ont quand même le mérite. Les Cavs, quand même, abordent nettement mieux ce rendez-vous que l'an dernier. Oui. Mais il y a un truc à Orlando, c'est on l'avait souligné, pas que nous, tout le monde le souligne. Il n'y a pas d'attaque. C'est pas une attaque digne d'une équipe de play-off. Et c'était la 22e attaque de la Ligue. Déjà, donc c'était de loin la plus mauvaise attaque à se qualifier en play-off. Et là, ça fait deux matchs. Ils sont à 36% au tir sur les deux matchs.
Ouais, c'est compliqué.
34% au tir sur les deux matchs. C'est catastrophique.
Ouais, et puis à 3 points, ils en mettent
23 à 3 points et même 68 au lancer franc, ce qui n'est pas dingue en fait.
Ah, sur le premier match, ils m'ont rendu fou. Sur la ligne, il n'y a rien qui rentrait. Enfin, c'était... J'ai l'impression que c'est une équipe qui prend le mur des playoffs en pleine tronche. Parce qu'en saison régulière, ils arrivaient à compenser cette adresse, cette attaque un peu limitée par. Un peu parfois les mêmes recettes que les Knicks, il y avait beaucoup de cœur d'agressivité dans le jeu défensif. Là, ils sont pas catastrophiques en défense, loin de là, mais c'est trop trop maladroit. Le terrain se resserre. Quand Cleveland, mine de rien, a un joueur qui Donovan Mitchell qui est au-dessus du lot. On l'a déjà dit plusieurs fois sur des matchs où l'adversaire est pas l'une des top équipes. Mitchell, en général, il arrive à faire des différences. Et lui, il a déjà fait des playoffs et la plupart de ses coéquipiers aussi, d'ailleurs, depuis l'année dernière. Et ça se voit, ça se voit aussi. Il n'y a pas besoin de mettre 45 points, ça se voit. Et Banchero et Wagner ne sont pas dramatiques, mais ils surnagent pas, ils subliment pas le reste de l'équipe. Et du coup, tu te prends deux défaites où tu n'as pas l'impression que l'adversaire est imprenable, mais tu perds quand même.
Oui, je trouve... En fait, en saison régulière, déjà, tu peux compenser parce que certaines équipes ne reviennent pas en défense et tu as peut-être, 10 points par match juste sur transition. Que t'as pas nécessairement en playoff parce que cette fois-ci, il y a beaucoup plus la volonté de non, mais attends, quoi qu'il arrive, sur chaque possession, on doit faire l'effort de revenir. Donc, il y a beaucoup plus de possessions sur demi-terrain, mais le Magic catastrophique sur demi-terrain. Banchero, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Franchement, j'adore le joueur, je crois en lui. Tu vois, les comparaisons avec Carmelo, des fois, il y a des moments, Banchero, il garde vraiment la balle, quoi, tu vois. Et déjà, mais en même temps, il n'a pas 50 autres choix non plus, parce que ça crée très peu de jeu. Enfin, il y a très peu de manières de créer du jeu autour.
Ouais.
Et je trouve que l'attaque du Magic est vraiment trop limitée. En plus, là, ils ont perdu Jalen Suggs sur blessure.
Ouais.
Tu sens qu'il manque encore des pièces. Alors, voilà, pareil, la série n'est toujours pas finie. Elle va aller à Orlando. Il n'y a pas un adversaire non plus ultra redoutable en face. Je ne veux pas manquer de respect aux Cavs. Encore une fois, je trouve que les Cavs, ils ont le mérite de prendre nettement mieux ce rendez-vous et il y a une bonne équipe. C'est une bonne équipe, Cleveland. C'est pas une mauvaise équipe. Mais le Magic n'est pas si loin des Cavs en termes de possibilités. Mais au moins, ça leur montre clairement pour la suite il faut vraiment qu'on développe une attaque et il nous faut des joueurs capables de développer une attaque. Parce que là, je sais pas, sur ce match-là, Fouls, il fait quoi? Il a joué que 6 minutes. Et Cole Anthony, j'ai pas en tête leur match-là, mais Cole Anthony, il a 0 sur 4. Ouais. Tu vois, c'est pareil, eux deux, j'avais trouvé en sortie de banc sur le premier match. Il n'y avait rien. Il y a Moritz Wagner, Franz Wagner et Banchero, grosso modo.
C'est ça.
Sur cette série. Quoi.
Et il y a d'autres trucs qui. Bon, je sais qu'en playoff, parfois, tu as des coachs qui changent leur plan ou qui s'adaptent à un adversaire en particulier, mais. Jonathan Isaac a été incroyable sur ses entrées. Donc, il n'était pas titulaire cette saison. Il a que deux titularisations sur 60 apparitions. Mais là, il a fait les deux premiers matchs dans le 5. Donc, c'est aussi une nouvelle formule qui est tentée. Wendell Carter, avec les blessures qu'il a eues cette saison, il a malheureusement perdu sa confiance. Il est moins à l'aise. Je retrouve pas la même équipe, tu vois. Je sais que c'est logique que ce soit difficile. C'est une équipe jeune, c'est une équipe dont la plupart des joueurs n'ont pas joué les playoffs. Mais je retrouve pas la même atmosphère autour de l'équipe dans le jeu, la même dynamique. C'est ce qui me frustre un peu parce que Orlando perde contre Cleveland, c'est pas déconnant. Cleveland, il y a aussi du talent. Il y a une année de plus d'expérience vis-à-vis des playoffs, mais J'aimerais revoir l'équipe d'Orlando qu'on a vue en saison régulière, tout bêtement. Je ne sais pas si ça passe par un changement de 5, par une autre façon de jouer, mais j'aimerais bien que les matchs à Orlando soient synonymes de. Voilà, qu'on puisse retrouver cette équipe.
Ce que je trouve ironique, c'est que j'aimerais les voir courir à fond, en fait, sans vouloir faire un match fou, mais juste parce qu'ils n'arriveront pas à marquer sur. Si c'est une série sur demi-terrain, les Cavs ont beau. Bah, enfin, gagneront à chaque coup, parce que Mitchell, il va faire des diffs, Garland, il va faire des diffs. Il va falloir trouver une autre méthode. Et moi, je pense qu'ils ont besoin de défendre comme des tarés, ce qu'ils savent faire, mettre de la taille, mais après, derrière, courir, quoi. Essayer de surprendre les Cavs en mode, ah bah tiens, regardez, on court, on va jouer vite et marquer des. Ouais, quitte à des fois prendre des tirs rapides et miser sur le fait qu'ils seront suffisamment athlétiques pour tenir le choc. Je sais que ça peut paraître contre-productif de se dire, bah, tu veux enflammer un peu le match alors que t'es. Enfin, pas contre-productif, mais pas naturel de vouloir enflammer un match alors que t'es pas une grande attaque. Mais là, sur jeu placé, c'est mort. Le Magic, ils peuvent pas gagner. Au mieux, ils en gagnent deux, mais c'est pas possible de gagner la série, quoi.
J'ai un peu peur aussi, ouais. Malheureusement.
Ce soir, il y a trois matchs. Il y a un Phoenix-Minnesota, Indiana-Milwaukee. Ces deux équipes, donc Phoenix comme Indiana, vont chercher évidemment à égaliser dans la série, tout comme Dallas. Dallas qui se déplacera à Los Angeles. Les Clippers qui avaient fait forte impression. Il y a un match dans le match dans cette série, c'est celui entre James Harden et Kyrie Irving. C'est un duel, enfin plutôt ces deux joueurs que vous avez abordé longuement dans le podcast avec Théo. Je vous invite à écouter ça. Ça a été posté hier, donc le podcast Reverse. Voilà, où ça parle de James Harden et de Kyrie Irving. Ça sera le match phare de la soirée. Je pense que c'est celui que j'essaierai de regarder de Mavericks Clippers. Moi, c'est la série qui m'intrigue le plus et j'ai été très déçu personnellement du jeu des Mavs sur ce premier match.
J'ai fanfaronné pendant que tu n'étais pas là hier. J'ai dit, je l'avais dit, alors que je sais que ça ne se finira pas comme ça. Hein, je déconne, mais.
les Mavs étaient vraiment retombés dans leur travers. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça. Alors, les Clippers font un match parfait. Hein. Je ne suis pas sûr que les Clippers refassent ce match-là à chaque fois. Mais...
Non, mais les Mavs, en théorie, ils peuvent pas faire moins bien que ce qu'ils ont fait là collectivement, individuellement, quasiment. Je pense que ce match 2 sera plus intéressant. La série va vraiment se lancer ce soir, cette nuit, je pense.
Et d'ailleurs, petite info, il n'y aura sans doute pas Kawhi Leonard, encore une fois. Et vu comment c'est parti, ça sent le truc où à chaque match, tu auras l'info de Kawhi Leonard ne sera pas là. Ouais. Il est questionable, je crois, pour le match 2. Alors, questionable, c'est quoi? C'est
dans l'ordre. Il y a un faux ami dans le lot, je sais plus lequel c'est.
Il y a doubtful et.
Ouais, il y a probable et questionable aussi, je sais plus, je sais jamais. Ouais, questionable, c'est peut-être le moins probable de ce qu'on a dit là.
Ok, bon, voilà. Sans doute pas Kawhi Leonard, quoi.
Tant que. Je pense qu'on le reverra peut-être au match 3 ou. Enfin, je sais pas, là, avec le fait qu'ils aient gagné le premier, peut-être que ça lui laisse un peu plus de temps, mais c'est pas très rassurant sur le long terme, forcément.
Ouais, et bon, écoutez, on sera là demain pour débriefer tout ça ensemble, et d'ici là, bonne journée à tous, et à bientôt.
Ciao.
Ciao.